Je suppose que ça suscite remous et réactions. Donc,
bouillonne.
Sinon, bouillonnement.
Merci de me céder la parole. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais tenter de susciter le débat. Alors, la question de départ, c'est faut-il constitutionnaliser la laïcité ? Est-ce qu'il y a une obligation en ce sens ? Est-ce qu'il y a une utilité en ce sens ? Ben, si je devais résumer l'ensemble des réponses que je vais un peu détailler maintenant, ce serait au travers d'un mot, ce serait bof. Alors, on peut attendre d'un texte juridique en général qu'il solutionne plus de difficultés qu'il n'en crée, ou qu'il pose moins de questions qu'il n'apporte de réponses. Et ce qui est vrai pour un texte juridique doit être vrai aussi, à une dose raisonnable, pour un texte constitutionnel. Or, je pense précisément qu'une disposition constitutionnelle nouvelle qui affirmerait la laïcité de l'État belge ne répondrait pas à cette exigence minimale de poser moins de questions qu'elle n'apporte de réponses. La première difficulté, elle a été évoquée, c'est celle qui conduit à voir coexister dans notre droit public aujourd'hui deux notions de la laïcité. Il y a la laïcité philosophique, qui est un courant convictionnel parmi d'autres, on y a fait allusion, et il y a la laïcité politique qui renvoie à l'idée d'une absence d'adhésion et de faveur de la part de la puissance publique à un courant convictionnel particulier. Or, comme l'ont souligné messieurs Jacquemin et madame Rosa Rosso, un individu peut à la fois être philosophiquement laïque et politiquement laïque, mais un État ne saurait pas l'être. Si l'État se déclare philosophiquement laïque, il cesse d'être politiquement laïque. C'est une contradiction performative. Il ne peut pas faire allégeance à un courant convictionnel particulier sans perdre sa laïcité. Et c'est en ce sens qu'on peut, je pense, expliquer cette phrase du Conseil d'État dans son arrêt de décembre 2010, dans l'arrêt Topal, qui dit « La Constitution belge, donc le Conseil d'État, n'a pas érigé l'État belge en un État laïque. Les notions de laïcité et conception philosophique, parmi d'autres, et de neutralité sont distinctes. » Je pense que c'est la manière de lever cette contradiction qui est liée au caractère ambigu de la notion de laïcité, qui renvoie à la fois à la laïcité philosophique et à la laïcité politique. Alors peut-être qu'on pourrait avancer un tout petit peu en améliorant la disposition constitutionnelle et en disant pas uniquement l'État belge est un État laïque, mais l'État belge est un État politiquement laïque. Mais je ne pense pas qu'on vaincrait toute difficulté, parce que la notion de laïcité politique est aussi une notion élastique. Grosso modo, l'idée est donc cette absence d'affiliation et de faveur vis-à-vis d'un courant convictionnel particulier. L'idée d'une indépendance de l'État par rapport aux convictions de non-ingérence. Ça, c'est l'idée de base, mais cette idée reçoit et peut recevoir des réalisations juridiques tout à fait différentes. Certains auteurs diront que notre pluralisme à la belge, tel que le dessinent les articles 24 et 181 de la Constitution en matière de financement de l'enseignement, de financement des cultes, que ce pluralisme à la belge, c'est déjà de la laïcité. Et Michel Leroy, ici en 2007, disait que l'État belge est un État laïque. Et c'est au nom de la même conception de la laïcité politique, compatible avec notre pluralisme à la belge, que Francis Delperré disait que votre proposition était sans doute inutile parce que le texte constitutionnel actuel offrait déjà toutes les garanties nécessaires. Alors on peut avoir une autre conception de la laïcité politique plus exigeante, et c'est celle de mon voisin de gauche ici, qui va beaucoup plus loin dans l'exigence de séparation, de non-ingérence. Et cette conception-là de la laïcité politique, alors, remettra en cause notre régime constitutionnel de subventionnement de l'enseignement non public ou de financement des cultes. Et donc, cette conception de la laïcité politique-là fait partie de ce qu'on peut qualifier de laïcité politique, et donc c'est démontrer que la laïcité politique ne renvoie pas à une conception une, indivisible, et vraie, et nécessairement non ambiguë. Et souvent, on fera référence au modèle français de la laïcité comme s'il était porteur, lui, de messages totalement non ambiguës, mais je pense qu'il n'est pas porteur de messages totalement clairs à ce niveau-là. Et comme Vincent de Courbitaire l'a dit, Xavier Delgrange et Nello Rouxel aussi dans un article récent, on surestime parfois complètement la portée de la laïcité à la française, notamment en termes de financement de l'enseignement non public. Il y a là parfois un excès dans la description, et le régime français comprend plus de nuances en sorte que la référence à celui-ci ne permet pas non plus de vaincre toute ambiguïté. Alors, est-ce qu'il serait possible d'éviter au maximum l'ambiguïté constitutionnelle en laissant de côté la notion de laïcité et en lui préférant celle de neutralité? Et c'est précisément l'objet de la proposition de révision de la Constitution que M. Miller a déposée et auquel vous faisiez allusion. Les développements de cette proposition indiquent grosso modo que le concept de laïcité est trop ambigu pour être constitutionnalisé, que cela va créer de la confusion, des malentendus, et qu'il vaut mieux se rabattre sur un concept supposé clair et précis, qui est celui de la neutralité. Alors, que penser de ça? Mais je pense que le concept de neutralité n'est pas non plus un concept qui est tout à fait clair, tout à fait précis. Si je prends la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État, on y voit affirmer quand même que la notion de neutralité telle qu'elle apparaît dans la Constitution à propos de l'enseignement est une notion qui peut avoir des géométries variables et subir des évolutions. Dans l'avis que la section de législation a rendu sur la proposition de décret qui envisageait d'interdire le port de signes convictionnels aux enseignants de l'enseignement officiel, le Conseil d'État a dit 1. Cette proposition est sous-tendue par une notion de neutralité qui est compatible avec le texte constitutionnel existant, mais elle a dit aussi une autre conception de la neutralité ne serait pas moins compatible avec le texte constitutionnel. Donc il y a là une souplesse, et la Cour constitutionnelle, je pense, dans son arrêt de mars 2011, a dit aussi que la notion de neutralité était une notion variable et évolutive, notamment éventuellement en fonction des communautés. Donc la notion de neutralité n'est pas tout à fait claire, mais elle est peut-être un tout petit peu plus claire que la notion de laïcité. Et par ailleurs, elle est elle-même un tout petit peu plus complète, si j'ose dire, parce que la laïcité évoque l'absence de faveur et de préférence de la puissance publique vis-à-vis d'un courant convictionnel, une religion, ou la laïcité philosophique, mais par contre ne traite pas de la question de la faveur de l'État vis-à-vis d'un courant politique ou communautaire. Là où la notion de neutralité, comme le dit le Conseil d'État, emporte également l'absence de préférence ou de faveur vis-à-vis d'un parti politique ou d'une communauté. De même que l'État belge n'est pas catholique, n'est pas laïque au sens philosophique, n'est pas davantage socialiste, libéral ou flamand. Et la notion de neutralité peut-être permet la notion de neutralité permet peut-être de tout couvrir. Donc voilà pour ce qui concerne les mots et le souci d'éviter l'imprécision. Alors, au-delà des mots, quelle serait l'utilité? Est-ce que ça va changer quelque chose au schmilblick juridique d'y ajouter dans la Constitution soit la neutralité, soit la laïcité? C'est selon. Est-ce qu'il va y avoir une efficacité juridique à cela? Est-ce que cela répond à une nécessité juridique, à une utilité juridique? Ou bien est-ce que c'est plus de l'ordre, ça n'est pas méprisable mais c'est autre chose, de la symbolique et de la pédagogie constitutionnelle, de rappel de principes qui existent déjà mais sans évolution de leur portée juridique? Alors 2-3 mots sur cette question d'efficacité juridique. Un, sur ce plan-là, je pense qu'il ne faut jamais surestimer les exigences du droit européen et international des droits de l'homme. On voit parfois affirmer que la laïcité de l'État est la condition sine qua non du respect des droits de l'homme et donc serait implicitement exigée par la participation de la Belgique à toute une série de traités en matière de droits de l'homme. Je ne pense pas que ce soit vrai, ou en tout cas pas à l'égard de toutes les définitions possibles de la laïcité. Le droit des droits de l'homme est très pragmatique. Il se préoccupe des actes de l'État, des actes des fonctionnaires de l'État, mais ne s'inquiète pas outre mesure de leurs apparences. Le droit des droits de l'homme s'accommode de schémas de non-séparation de l'Église de l'État ou de recoupement sur les mêmes têtes de fonctions d'autorité religieuse et d'autorité civile sans s'inquiéter outre mesure de cela. Le droit des droits de l'homme, alors peut-être qu'on peut le contester, moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qu'il dit, le droit des droits de l'homme, ou en tout cas la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, conçoit parfaitement qu'un enseignement public puisse être neutre malgré la présence d'un crucifix sur les murs de la classe. Donc il ne se préoccupe pas trop d'apparence, et donc il ne faut pas y voir absolument une obligation de consacrer la laïcité de l'État sous la déclinaison, en tout cas, d'absence obligatoire d'affiliation à une conviction particulière. Non, je pense que c'est une question d'acte et moins d'apparence pour le droit des droits de l'homme. Alors, une autre utilité juridique qui est envisagée par les développements de votre proposition de révision constitutionnelle et de celle de M. Miller, ce serait de mieux asseoir l'introduction d'un dispositif, vous y avez fait allusion, qui obligerait les candidats aux élections ou les partis à souscrire à une déclaration de respect de ces principes de la neutralité, de la laïcité et des droits de l'homme. Alors que penser d'un tel mécanisme ? Ben, je dirais simplement, attention, nous ne sommes pas en zone de confort du point de vue de la liberté d'expression et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans l'arrêt qu'elle a rendu à propos du financement public des partis liberticides, a quand même dit qu'un dispositif législatif ne pouvait pas sanctionner un parti qui simplement propose une modification du droit des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'est pas sacré, ça n'est pas réifié. Il y a de la place pour la discussion. De même, la Cour constitutionnelle dit qu'un parti politique ne pourrait pas perdre sa dotation s'il discute et critique les présupposés philosophiques et idéologiques sur lesquels repose la Convention européenne des droits de l'homme. Non, dit la Cour constitutionnelle, la sanction sous forme de déchéance, de dotation, ne peut survenir qu'en cas vraiment d'incitation à la violation d'une norme en vigueur. Alors voilà, ça c'est la zone de confort constitutionnel. Et par rapport à ça, je me demande alors si on n'a pas déjà tout ce qu'il faut dans l'arsenal juridique et s'il faut vraiment en rajouter. On a quand même un droit antidiscriminatoire qui interdit l'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence, sur base du sexe, de l'orientation sexuelle ou de la religion. Ce droit antidiscriminatoire a été mobilisé avec succès dans l'affaire Sharia for Belgium. Je veux dire, Fouad Belkacem a été condamné par la Cour d'appel d'Anvers pénalement le 6 mai 2013. Le pourvoi en cassation a été rejeté par la Cour de cassation le 29 octobre 2013. Donc, ce droit antidiscriminatoire dont la constitutionnalité était certifiée de A jusqu'à Z par la Cour constitutionnelle est capable d'arriver à quelque chose vis-à-vis des ennemis de la démocratie et de ceux qui tenteraient de remettre en cause les fondements essentiels de celle-ci, notamment du point de vue de la séparation entre l'autorité, enfin la séparation entre l'Église et l'État. De même, le Conseil d'État, dans un avis de février 2013, a dit qu'il serait parfaitement constitutionnellement envisageable de créer une incrimination d'appartenance ou de collaboration à un groupement qui prône la haine, la discrimination religieuse ou sexuelle. Ça existe pour ce qui concerne les groupements racistes, ça pourrait exister pour ce qui concerne les groupements qui prônent l'incitation à la haine religieuse, sur base de l'orientation sexuelle, sur base du sexe. Donc, tout cela est possible dans l'état actuel de la Constitution sans que n'existe une disposition qui garantit expressément la neutralité ou la laïcité de l'État, ce qui diminue peut-être l'urgence juridique de son insertion. Alors, la dernière chose que je voudrais dire à ce stade, c'est pour rebondir sur le débat, la question que vous aviez ouverte à propos de l'impact que pourrait avoir l'inscription de la laïcité de l'État ou peut-être de sa neutralité, peu importe, sur la problématique des signes convictionnels portés par les élèves à l'école. Donc vous avez fait allusion à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la France, je pense qu'on aurait pu évoquer aussi celle relative à la Turquie, où l'on voit effectivement la prise en considération de l'importance attachée par l'État défendeur à la laïcité pour justifier, entre autres, hein, c'est une considération parmi d'autres, pour justifier l'interdiction. Alors, personnellement, je ne suis pas trop à l'aise avec l'idée de déduire des conclusions tout à fait certaines et tout à fait mathématiques de ce genre de raisonnement par analogie. Je veux dire, par rapport à la jurisprudence belge à l'heure actuelle et les arrêts récents rendus par le Conseil d'État le 14 octobre 2014, il y a quand même une distance importante dans ces arrêts relativement longs, mais qui concernent donc l'interdiction des signes convictionnels dans l'enseignement flamand. Le Conseil d'État rappelle, et personnellement j'ai tendance à souscrire à cela, que la neutralité de l'enseignement en Belgique, elle concerne les enseignants et l'organisation des enseignants, mais pas les élèves. La neutralité est là pour permettre aux élèves d'exprimer leurs convictions sans être défavorisés et n'est pas une source d'obligation pour les élèves. Je pense que la laïcité n'est pas autre chose, et c'est ce qu'avait dit le Conseil d'État français dans son avis de 89 en disant que ce n'est pas la laïcité qui peut justifier l'interdiction du port du voile à l'école. Personnellement, je me sens plus à l'aise dans cette conception-là, compte tenu par ailleurs du fait que la jurisprudence de Strasbourg sur la France a été démentie par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc là, il y a aussi un bel écheveau juridique à dissiper. Donc voilà concrètement tout ce qu'il y avait derrière mon bof initial.
Bien, mais avant de permettre à Olivier de réagir, je ne peux pas m'empêcher de... Non, j'ai promis d'être modéré, d'essayer de l'être. D'essayer d'être, mais non, de toute façon, bon, peu importe, je me tais sur le fond. Il y a quelque chose qui est frappant en vous entendant, c'est qu'il y a quelque chose qui apparaît comme inintéressant, mollasson et inexistant, c'est la neutralité. Pour Sébastien, ce n'est pas nécessaire de l'affirmer dans la conscience parce que tout est en ordre, tout va bien, la maison est belle. Pour Olivier, c'est un lion édenté. Et à la limite, un peu dangereux parce qu'on peut y mettre n'importe quoi, ce qui est d'ailleurs confirmé par Sébastien puisqu'il nous explique qu'à partir de la neutralité, on peut lire blanc comme noir. Je dirais qu'on a déjà avancé. Puisqu'on est si fiers dans ce pays de dire on a un système qui est à la belge, qui est la neutralité à la belge. Eh bien, on prend, je l'ai dit dès l'entrée de jeu, deux intellectuels qui ne pensent pas la même chose, au moins là-dessus ils pensent la même chose, c'est que la neutralité n'est pas en tout cas un instrument opératif pour poursuivre un objectif ou l'autre. Ça me paraissait utile de le souligner. Deuxième remarque, et après ça je vous promets je me tais, c'est que je crois qu'il est un peu simple quand même de tuer la laïcité politique au nom d'un hold-up sémantique fait par un courant philosophique donné. Il est évident que si on doit affirmer la laïcité politique dans la Constitution, eh bien il conviendra que ceux qui se revendiquaient d'une laïcité philosophique changent l'étiquette sur la bouteille, parce qu'il y aura un concept affirmé constitutionnellement, et ça mettra fin à ce qui, je l'ai dit in tempore non suspecto, était à la fois une erreur historique et politique majeure, mais était aussi un vol de concept. Et je trouve que la manière dont on a pu définir la laïcité politique prive de légitimité le fait d'avoir donné à un courant philosophique particulier une appellation qui ne correspond pas à sa définition originelle. Olivier.
Oui, beaucoup à dire sur l'intervention du professeur Van Rovenbroek, mais je doute bien que vous aurez aussi quelques commentaires. Bon, d'abord, oui. Si évidemment on tue le débat sur la laïcité de l'État au motif que ça crée la confusion avec un courant philosophique, alors on part d'une prémisse qui fait que le débat est éteint dès le départ et on fausse, je dirais, la compréhension du débat. D'autant plus, et c'est dans ça que je crois que le mot de laïcité de l'État a quand même une force historique plus grande que ce qu'est aujourd'hui l'affirmation d'un courant philosophique, c'est que c'est quand même une construction qui nous vient de loin dans l'histoire, qui nous vient du siècle des Lumières, qui nous vient de la Révolution française, qui correspond à une valeur certes très républicaine, mais pas uniquement parce qu'elle est française, mais parce qu'elle correspond au fait que la laïcité a maille à partie, est étroitement liée à la notion de citoyenneté et à la notion d'état de droit. Et on ne peut pas les dissocier, à mon sens. Et donc, à un moment donné, si évidemment on réduit la notion de laïcité à uniquement une question liée à un courant philosophique, voire même à une lutte contre le cléricalisme qui a pu se justifier au regard de certains événements dans l'histoire, on a évacué ce qui est la longue évolution qu'a très bien rappelé le rapport Stasi en France, et il faut le relire, ou que rappelle fort bien ce qui reste pour moi, à mes yeux, le meilleur penseur de la laïcité en France, la laïcité de l'État, qui est Henri Pénard-Ruiz que je citais, qui est une conception qui a été bien au-delà de la seule question de la séparation des églises et de l'État, qui est une conception, je dirais, traditionnelle et historique, et qui va bien au-delà. Deuxième réflexion, je crois que l'intérêt d'inscrire dans la Constitution ce type de notion au regard, c'est en effet de forger, d'abord il y a un débat de principe, oui c'est vrai, il y a un débat de principe, et on a un peu le sentiment que finalement c'est parce qu'on a peur d'avoir le débat de principe que l'on dit que la notion est relative et d'un intérêt très médiocre, mais c'est parce que peut-être on veut fuir le débat de principe. Et moi, je voudrais bien que le débat de principe se tienne, quitte à ce que je sois battu. Ça, je doute bien que je n'aurai pas aujourd'hui une majorité au Parlement.
C'est une habitude.
C'est malheureusement une habitude. Voilà, c'est comme ça que je tente d'avoir raison par d'autres voies. Mais, merci de m'inviter. Mais plus fondamentalement, c'est parce que c'est à force d'avoir ce genre de débat qu'on peut amener des évolutions, en ce compris législatif. À supposer même que je n'obtienne pas satisfaction en inscrivant le débat, la notion de laïcité de l'État dans la Constitution, on aura au moins une réflexion sur quels sont les principes qui peuvent conduire à l'adoption de certains nombres de législations regardent un certain nombre de problèmes qui se posent dans la société. Car par exemple, on ne peut pas nier qu'il y a le débat de l'expression publique des convictions philosophiques et religieuses dans l'espace public. C'est un vrai débat. Et comme on ne veut pas l'aborder par l'aspect conceptuel qu'est la laïcité de l'État, on tente de le régler, comme trop souvent en Belgique, par un aspect purement pragmatique. Quel est le plus petit commun dénominateur que l'on peut trouver ? Faute d'affirmer des valeurs essentielles. Le résultat, c'est qu'on fait toujours une côte mal taillée, qui donne lieu à beaucoup de controverses et à beaucoup de recours. Et c'est pour ça que je crois qu'une notion comme la laïcité de l'État assoit un débat juridique de manière plus certaine et permet de construire un système juridique plus complet que ce que nous faisons chez nous. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la laïcité à la française soit parfaite. Bien entendu qu'il y a des coups de canif ou des entailles dans le principe de la laïcité d'État. La loi Debré, à peine avait-on affirmé dans la Constitution de 1958, avec d'ailleurs une atténuation voulue par le général de Gaulle, le principe de la laïcité de l'État, que la loi Debré de 1959 est venue par rapport à l'enjeu essentiel, car la laïcité de l'État en France est beaucoup liée évidemment au statut de l'enseignement public. Mais c'est aussi un débat qu'on pourrait peut-être avoir chez nous par rapport à une évolution historique. Rien n'est figé pour toute l'éternité quand même. L'éternité n'ayant pas beaucoup de sens pour ce genre de débat d'ailleurs. Et donc, fondamentalement, il y a lieu de peut-être poser des principes de base pour pouvoir en tirer un certain nombre de conséquences. Alors moi je suis très clair. Oui, je veux ce type de débat parce que je veux qu'on dépasse la logique des piliers dans le système sociologique belge. Non pas que je veuille l'effacer totalement, non pas que je veuille nier un apport historique, mais n'est-il pas temps, au regard d'un certain nombre d'enjeux, de le dépasser pour voir ce qui unit et ce qui peut amener à certaines convergences. Est-ce que ça n'ira pour autant qu'il y ait encore des pouvoirs d'organisateur d'un enseignement en lui ? Non, bien entendu, je ne veux pas un système unifié d'un enseignement unique ou officiel unique, mais ça peut poser parfois les questions, en effet, d'un certain nombre de conception de l'enseignement à travers les différents pouvoirs organisateurs. Ça, c'est vrai. Parce que ce débat-là, vous l'aurez tôt ou tard, a fortiori, si d'autres pouvoirs organisateurs s'affirment dans le paysage de l'enseignement obligatoire. Et je crois qu'on ne va pas pouvoir évacuer ce jour-là le débat uniquement par une approximation, soit liée à la neutralité de l'État, soit liée à une recherche du plus petit commun dénominateur. Je crois qu'il faudra poser des questions de principe. Et autant préparer ce débat en temps serein et utile.
Oui, moi je ne suis pas du tout contre le débat, mais c'est simplement ma question c'était de savoir si ce débat sera clairement engagé sur base d'une disposition qui affirmerait la laïcité de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confusion tel que l'on risque de manquer le débat à vouloir l'engager sur ce terrain-là, qu'on discute du financement public des cultes, certes, mais alors faisons-le dans le cadre d'une révision de l'article 181 de la Constitution. Il y a certainement plein de choses à dire sur le fait, par exemple, qu'il n'existe pas de critères généraux et abstraits à l'heure actuelle qui permettent de dire pourquoi un culte est reconnu ou pas reconnu et donc financé. Donc ce genre de débat, certainement, il y en a plein d'autres à pouvoir engager, mais est-ce que l'insertion d'une disposition dans la Constitution sur la laïcité est un moyen d'engager ce débat avec transparence, ou bien est-ce que l'on risque, à force de malentendus, de vouloir y mettre un peu tout ce que l'on veut chacun y voir, au risque d'avoir alors une notion parfaitement fouillante avec un encéphalogramme juridique un peu plat comme ça, parce qu'il aura fallu trouver un compromis derrière tout ça, un peu comme l'insertion du développement durable dans la Constitution, on y a mis plein de choses, et à force de vouloir y mettre plein de choses, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc que le débat soit peut-être mené certainement, mais qu'il soit mené sur des terrains où il pourrait être mené en toute transparence, et pas prendre le risque éventuellement d'enfumer un peu tout le système avec l'adjonction d'une disposition sur la laïcité dans un premier temps, qu'à la limite ce soit la dernière réforme à opérer le jour où on a réfléchi à tout le reste, mais peut-être pas la première. Voilà, simplement.
Oui, je crois qu'on va là. Je vais bien résumer ce qui nous différencie. Je veux un débat de principe d'abord pour en voir quelles sont les conséquences et les conclusions qu'on en tire. Vous proposez d'aborder des aspects particuliers avant de savoir si on arrive à une construction qui conduit à l'affirmation d'un principe. Voilà, ce sont deux méthodes que l'on peut évaluer dans leur intérêt respectif, mais je continue à penser que faute d'avoir des débats de principe, je dirais presque conceptuels sur des notions peut-être trop abstraites, mais nécessaires pour guider un débat juridique, on évite d'arriver un jour à avoir le débat sur toutes les conséquences de la notion.